Donc merci d'abord pour m'avoir invité à ce congrès, mais en tant que secrétaire adjoint, j'étais déjà venu en Vendée, je crois, à une assemblée générale de l'UTR. On avait pique-niqué et visité un château l'après-midi. Il y avait la partie récréative. J'étais venu aussi à une assemblée générale de l'ULR de Montaigu, je crois. Hein. Voilà, bon. Donc j'assume donc depuis novembre la responsabilité de secrétaire de l'Union régionale des retraités des Pays de la Loire avec près de 6000 adhérents. Donc c'est un chiffre important. Alors je voulais aussi préciser que je n'étais pas là en tant que représentant de l'UCR pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce que ce matin, j'ai entendu quelques remarques, quelques peut-être critiques sur certaines positions de l'UCR. Bon, je ne suis pas vraiment dans l'UCR, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis, voilà quoi. Hein. Donc, mais je partage quand même la majeure partie des orientations quand même de la CFDT retraitée. Donc je représente l'URR au Conseil national de l'Union confédérale des retraités, et donc dans le cadre de ce mandat, je relais effectivement auprès de cette instance vos préoccupations de retraités. C'est ainsi que hier se tenait un Conseil national de l'UCR. Je suis intervenu sur les différents sujets traités, hein, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat des retraites complémentaires, du tiers payant et de la loi sur l'adaptation au vieillissement, puisque on en a parlé, vous en avez plusieurs fois parlé dans vos interventions ce matin. Et j'ai effectivement fait une intervention sur tous ces sujets, sur la base des éléments que certains ont évoqués ce matin. Alors, je voudrais dire, bien évidemment, un congrès comme celui-ci est important pour moi. Ça me permet effectivement de venir et de visiter le terrain pour connaître effectivement vos réactions, vos propositions, et que je fais effectivement remonter au niveau du CR. Et on est quand même connu de l'URI, parce que ce matin, quelqu'un a dit qu'on était méconnu de l'interprofessionnel. C'est pas tout à fait le cas, puisque je suis mandaté quand même par l'URR au bureau régional Interpro, qui se réunit lui tous les mois. Donc, c'est vrai que votre présence aujourd'hui traduit l'importance de votre engagement syndical au sein de la CFDT retraités, mais je voudrais rappeler quand même que seulement 10% des adhérents salariés restent adhérents chez les retraités. C'est quand même faible. Il y a une grosse déperdition. Alors pourquoi rester à la CFDT après le passage à la retraite? Question effectivement que se pose un certain nombre et un grand nombre de salariés. Donc, je voudrais quand même rappeler que le syndicalisme retraité, c'est aussi poursuivre son action aux côtés des salariés, défendre les valeurs et les revendications de la CFDT. C'est aussi agir dans la cité, donc pour améliorer la qualité quotidienne, améliorer la vie quotidienne des personnes âgées et contribuer à agir pour défendre la protection sociale, sans oublier bien évidemment le pouvoir d'achat des retraités et la prise en charge de la perte d'autonomie. Alors comme certains effectivement l'ont dit ce matin, la crédibilité, la force de notre syndicalisme CFDT, ça passe par une augmentation du nombre d'adhérents. Donc, c'est vrai que favoriser le passage d'adhérents salariés à adhérents retraités, c'est le rôle des structures professionnelles et interprofessionnelles, mais c'est aussi le rôle de chacun de nous. Et je rappellerai quand même qu'on peut chacun, à son niveau, favoriser l'adhésion auprès des membres de sa famille, d'amis ou de voisins. C'est déjà, au niveau de la proximité, une possibilité de faire adhérer les gens chez les retraités. Donc, comme ça a été dit ce matin, et je pense voté dans la résolution cet après-midi, il faut favoriser les contacts avec les syndicats de salariés, effectivement, pour permettre un plus grand transfert donc des adhérents salariés chez les retraités. Alors, on va, c'est nouveau ça, on va disposer de deux listings dorénavant qu'on a eues la semaine dernière, un listing qui nous a été fourni par l'UCR avec les adhérents potentiels. Donc il faudra quand même l'utiliser, on va voir, on en reparlera au prochain bureau de l'UCR, au bureau de l'URR, et on verra comment on va l'utiliser. Mais ça me paraît intéressant. Ensuite, il y a un deuxième listing qui vient de nous être fourni par la région interprofessionnelle sur les adhérents salariés qui ont plus de 58 ans. C'était notre demande, donc on va voir aussi comment exploiter ce listing. Je pense que vous en avez parlé ce matin. Il y a aussi le dépliant qui a été fait par l'URR. L'URR, oui, on finit par se perdre dans les sigles. Et celui-là, je pense qu'il faut l'utiliser quand on interne en extérieur. Et ce matin, quelqu'un a dit et a regretté que dans le journal régional interprofessionnel, on ne parlait jamais des retraités. Donc ça va être fait parce que j'ai rédigé un article pour une page dans une prochaine publication Banque de la Région. Et donc j'espère que ça va être publié d'ici l'été. Donc ce sont aussi des éléments qui peuvent favoriser l'adhésion chez les retraités. Et il a été rappelé ce matin aussi que les retraités jouent la solidarité interprofessionnelle en acceptant d'être juges prud'homaux. Hein. Je crois qu'il faut le rappeler aussi, défenseurs syndicaux, conseillers du salarié. Ah, on s'est dit pour toi. Il y a aussi des conseillers du salarié. Il y a aussi des membres d'instances à la sécurité sociale, aux mutuelles, aux caisses de retraite, sécurité sociale et complémentaire, dans les CCAS, les CONERPA, les PIC et l'ARS. Donc on est partout les retraités. Voilà. Et donc, alors, sur la position de la CFDT, je pense que, je ne suis pas le premier à le dire, je pense que le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, l'avait évoqué au dernier congrès confédéral de Marseille. Il s'interrogeait si un jour ou l'autre, la CFDT ne va pas devenir le premier syndicat au niveau français. On peut se poser la question, hein, parce que, effectivement, moi je suis optimiste, parce que je persiste à penser que nous connaîtrons une certaine situation. Il s'agit, quand on constate les bons résultats électoraux qu'on fait dans les TPE, PME, dans le privé et plus récemment dans les fonctions publiques, on est quand même, on défend nos positions. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il n'est pas impossible que la CFDT devienne le premier syndicat de France et ça changerait beaucoup de choses. Alors maintenant quelques mots sur la situation économique et sociale, hein, avec effectivement une aggravation continue du chômage qui inquiète effectivement la population. Et je pense qu'on en parlait encore ce midi, c'est quand même la première préoccupation de l'ensemble de la population, et on le voit encore dans les débats qui ont lieu dans le cadre des élections départementales. Et effectivement, il est souhaitable que l'emploi s'améliore dans les mois et les années qui viennent, parce que là, on peut avoir quelques craintes quand même, si les résultats ne sont pas au bout, au niveau des résultats de 2017, il y a quand même quelques craintes à avoir. La CFDT fait son travail, hein. Je crois qu'il faut aussi le rappeler, pour améliorer la situation des salariés et de la population. Nous avons négocié une convention d'assurance chômage qui améliore le droit des chômeurs. On a aussi obtenu une garantie jeune qui favorise l'insertion des jeunes en difficulté. On a aussi négocié le contrat de sécurisation professionnelle qui permet la reconversion des licenciés économiques. On a aussi travaillé sur la loi sur la perte d'autonomie et on a bien vu que les positions de la CFDT ont fait bouger les lignes. Je redirai quelques mots tout à l'heure sur la loi sur l'adaptation au vieillissement. Et puis quand ces représentants se battent au quotidien dans les entreprises pour maintenir l'emploi, je crois que Pascal en a dit quelques mots ce matin. La CFDT a donc fait le choix d'un syndicalisme de résultat. Et la CFDT refuse un syndicalisme de posture inefficace comme celle pratiquée par d'autres organisations syndicales. Et effectivement, participer à une conférence ou à une négociation collective uniquement pour créer un événement et apparaître médiatiquement démontre la faiblesse du syndicalisme incarné par ces organisations syndicales. Car force est de constater que la dénonciation et la critique sont toujours plus aisées que l'argumentation sur de nouvelles propositions en faveur de la lutte contre les inégalités et le chômage. Donc la posture syndicale est contraire, on le pense, à la CFDT, à l'intérêt général, et donc on pense que ça cache effectivement le fait de n'avoir rien à dire ou à proposer. Vous voyez de quelles organisations je veux parler. Aujourd'hui, donc, la CFDT incarne un véritable contre-pouvoir dans l'entreprise et les branches, et au niveau national, interprofessionnel. Alors maintenant, on va évoquer les quelques dossiers qui concernent principalement les retraités, et donc la prise en charge des revendications par l'Union confédérale. Donc, on a été à l'offensive en 2014 sur un certain nombre de dossiers revendicatifs. D'abord, sur la perte d'autonomie et son financement. Alors, je vous rappelle que la CFDT mène l'action depuis de très nombreuses années avec des manifestations nationales, locales et des pétitions pour obtenir une loi. Donc, vous avez vu qu'en première lecture, l'Assemblée nationale avait voté cette loi, maintenant qu'on n'appelle plus perte d'autonomie, mais loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Bon, ça change. On se fait peut-être plaisir, mais bon, pour certains, c'est important. Loi qui comporte des mesures concernant donc le maintien à domicile, la réforme de l'APA et les aides aux aidants. Alors, le Sénat donc, a examiné ce projet de loi la semaine dernière, mercredi ou jeudi. La loi est donc votée et va revenir maintenant devant l'Assemblée nationale pour une dernière lecture. Bon, on verra. Je n'ai pas le détail de l'examen par le Sénat. Il semblerait qu'il n'ait pas dénaturé. Mais il n'y a pas beaucoup de modifications. On nous a dit même qu'il y avait quelques points d'amélioration. Enfin, maintenant, c'est aux députés de se prononcer. Et on pense que la loi sera définitivement adoptée avant l'été. Je dis on pense. Parce que le gouvernement, quand même, dans le même temps, a annoncé que la mise en place de la loi, et certains l'ont dit ce matin, est reportée, l'application de la loi, est reportée au 1er janvier 2016. Donc là-dessus, l'Union confédérale des retraités a donc, s'est donc manifestée au niveau national auprès du ministère concerné pour effectivement dire qu'on n'était pas du tout d'accord sur le report de la mise en application de cette loi, hein, puisque dans les différents contacts que nous avons eus avec les ministres concernés dans le deuxième semestre 2014, ils nous avaient indiqué que la loi serait mise sans faute en application le 1er juillet 2015. Alors, c'est une première étape, hein, parce qu'il reste quand même la deuxième étape qui est aussi importante, c'est tout ce qui concerne les établissements. Les établissements pour personnes âgées. Et cette seconde partie n'a pas été évoquée, alors nous a-t-on dit pour des raisons financières. Voilà, donc, mais bon, je dirais à chaque jour suffit sa peine. On a tellement attendu longtemps pour avoir cette loi qu'il est important quand même au moins que la première partie soit votée le plus rapidement possible. Sur le pouvoir d'achat, alors question qui est évoquée souvent dans les réunions de retraités par rapport notamment à la fiscalisation et tous les nouveaux impôts que les retraités ont dû subir dès cette année. Là aussi, on a dit que nous n'étions pas d'accord parce que tout ça aurait dû être examiné dans le cadre d'une réforme fiscale globale. Hélas, nous n'avons pas été entendus. Alors, quelquefois, on a des reproches sur ce sujet-là. Mais on confond un peu. La CFDT, c'est pas le décideur. Parce que je pense que quelquefois, comment on se fait dire qu'on n'a pas obtenu ça ou qu'on a évité ça? Mais après, nous sommes dans l'organisme syndical, nous défendons des positions. mais après, ce sont les politiques qui décident et les pouvoirs publics. Alors, il y a aussi le gel des pensions. Alors, sur le gel des pensions jusqu'à octobre 2015, l'Union confédérale des retraités a été claire là-dessus. On s'est exprimé en disant, alors oui, je vois des hochements de tête là-dessus qui doivent considérer qu'on n'a pas été suffisamment percutant sur ce sujet-là. Mais le boulot a été fait au niveau national. Alors ce qu'on a dit au gouvernement, c'est qu'on ne voulait surtout pas que cette mesure continue à s'appliquer au-delà d'octobre 2015. Parce que alors là, ça va durer combien de temps? Mais là-dessus, on a quelques inquiétudes quand même, il ne faut pas se le cacher. On se demande effectivement si ce gel ne va pas durer au-delà du 1er octobre 2015. Alors, l'octroi de la prime exceptionnelle de 40 euros sur lequel on a eu quelques interventions ce matin, je pense, donc, a donc été enfin payé. Dans les rangs de la CFDT, certains adhérents retraités ont considéré que bon, c'était pas grand-chose cette affaire-là. Il y a même des endroits où les gens ont dit « Oh, tout ça vaut rien ». Oui, mais enfin, ça a quand même été obtenu, et ça a été obtenu grâce à la CFDT. Et on discute aussi. Donc il y a ceux qui minimisent un peu la portée de cette décision en disant que ça ne représente pas grand-chose. Mais on a quand même des réactions de retraités au sein de la CFDT qui disent qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Et que les 40 euros, pour un certain nombre dont les retraites sont très basses, les 40 euros sont les bienvenus quand même. Hein, parce que bon, alors après, on peut toujours dire que ce n'est pas suffisant, c'est ce qu'on a dit au sein de la CFDT. Mais bon, les 40 euros sont là. Alors après, reste la question de savoir si cette mesure-là va être reconduite, parce que elle est quand même exceptionnelle. Hein. Enfin, annoncée comme telle aujourd'hui, peut-être conduire dans l'avenir, mais aujourd'hui, on nous dit que c'est une mesure exceptionnelle. La CFDT retraitée, l'UCR en particulier, continue effectivement à revendiquer un niveau minimum de pension équivalent au SMIC net pour une carrière complète. Et ça, encore, au cours du conseil de l'UCR hier à Paris, c'est une exigence des différentes structures régionales CFDT. Il a été dit qu'il fallait absolument toujours rappeler cette revendication. Troisième dossier, l'accès à des soins de qualité pour tous et partout. Et là, on peut évoquer le tiers payant. La proportion de... ça va, parce que sur l'ordre du jour, c'était jusqu'à 16h30. Je pense qu'on aurait fini avant. Pas en ce qui me concerne. il faut quand même rappeler que la proportion de personnes de plus de 60 ans augmente comme l'espérance de vie. Donc c'est une chance aussi, mais c'est forcément un défi. Et les ressources et les conditions sanitaires doivent permettre une espérance de vie en bonne santé, ce qui sous-entend un accès à des soins de qualité pour tous et de qualité. Pour la CFDT, les retraités, notamment les plus modestes, sont aussi concernés par la réforme du tiers payant. Et surtout alors, et ça, la CFDT le rappelle, c'est que plus de 25% des Français renoncent aux soins courants. Et la généralisation du tiers payant doit rester une priorité, donc nationale. Et on dénonce aussi le comportement de certains médecins, je le dis aussi, qui font grève de la carte vitale pour s'opposer à la réforme, ou qui refusent de télétransmettre les feuilles de soins, et on dit que ce n'est pas défendable car ils pénalisent le budget des assurés sociaux. Vous avez donc vu aussi que l'UCR avait rédigé un tract national dont le contenu a été jugé intéressant par l'ensemble des adhérents au CFDT, notamment les retraités. J'ai même vu que certains secteurs interprofessionnels l'avaient repris à leur compte en changeant retraités par la structure professionnelle et interprofessionnelle en question. Mais tant mieux, parce que si on pense qu'on a fait un bon boulot, autant qu'il soit pris par les structures, l'ensemble des structures de la CRDP. Il y a aussi le problème des complémentaires santé pour tous les retraités. Il faut quand même rappeler qu'au départ, à la retraite, la couverture collective de l'entreprise cesse donc de s'appliquer, alors que les besoins médicaux augmentent et le coût du mutuel devient important. Ça a été signalé par un intervenant ce matin. Et donc, on rappelle quand même qu'au niveau national, la CFDT retraitée revendique un fonds mutualisé pour généraliser l'ouverture d'une complémentaire santé à tous les retraités. Bon, après, c'est un peu compliqué puisqu'il faut régler le problème du financement de ce fonds. Et qu'actuellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué à cause de la situation économique de trouver effectivement des fonds pour alimenter ce fonds mutualisé. Je pense que si on veut qu'un jour on avance sur le sujet, il faut sans cesse rappeler notre revendication. Alors maintenant, sur les retraites complémentaires, donc ce serait le dernier dossier. Donc on a vu qu'il y avait un déséquilibre démographique qui provoquait les difficultés financières de l'ARPO et de l'AGIRC, et que si aucune mesure n'est prise, les réserves vont s'épuiser donc en 2027 pour l'ARPO et en 2018 pour l'AGIRC. Et donc si on veut pérenniser ces régimes, il faut donc trouver des économies. Alors la CFDT donc rappelle qu'elle est d'accord pour examiner la question sous réserve que les efforts demandés soient équitablement partagés entre les salariés, les entreprises et les retraités, et qu'une attention particulière soit portée aux retraités les plus modestes. Et donc là, il y a eu une réunion de négociation donc, la semaine dernière. La négo se poursuit jusqu'à la fin du mois de juin. Alors hier, on a interrogé les responsables de l'UCR, et il y avait Véronique Desca, qui était la secrétaire générale adjointe de la Confédération, qui est venue faire un tour d'horizon de situation économique et sociale pour savoir qu'est-ce qui pouvait se passer. Parce que moi, j'ai regretté dans le débat, et je l'ai dit dans mon intervention, qu'il me semblait que jusqu'à présent, si on admettait qu'il fallait regarder la question quand même pour équilibrer les régimes, la position de la Confédération CFDT ne paraissait pas assez et suffisamment claire. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où nous causons, moi j'ai souhaité la Confédération CFDT doit, dans les plus brefs délais, effectivement, clarifier ses positions. Parce que la crainte des adhérents et des retraités en particulier, c'est de dire, si la CFDT ne dit rien ou ne propose pas grand-chose, au bout de la course, on va encore être contraint d'accepter les propositions des autres, et notamment les propositions du patronat. Et vous avez vu que les propositions du patronat, pour l'instant, ne nous conviennent pas. Donc le mieux, c'est d'être offensif sur ce sujet-là, et le plus rapidement possible. Je souhaite qu'effectivement, la CFDT puisse définir plus précisément ses propositions. Alors vous avez vu que cette année, il y a un gel. Aussi, il y a un gel, j'en ai parlé tout à l'heure, des régimes de sécurité sociale, mais il y aura aussi un régime de pension cette année, des retraites complémentaires. Ça découle d'un accord que nous avions accepté, je crois, en 2012, et qui s'appliquait en 2014 et 2015. En 2012, alors, vous vous rappelez que cet accord comportait une clause qui prévoyait que l'évolution des pensions de retraite complémentaire serait inférieure à l'indice des prix. On avait accepté ça en disant on en prendra seulement une partie. Ce qui fait qu'en 2014, nous avons eu les pensions de retraite complémentaire qui ont été augmentées de 0,6%. Seulement cette année, l'inflation est à zéro. Donc heureusement que nous avons une clause qui faisait que en cas d'inflation zéro, on ne pouvait pas descendre, parce qu'une application stricte du système qu'on avait voté, c'était un peu moins d'évolution en fonction de l'indice des prix. L'indice des prix étant nul, on aurait pu avoir le risque d'avoir une légère diminution des montants de pension. Heureusement, dans notre accord de 2012, nous avions prévu qu'en cas d'inflation zéro, les pensions ont été seulement gelées. Alors après, dans la négociation, là, on ne sait pas, et il se pourrait aussi que les pensions de retraite complémentaires soient gelées. Elles le sont en 2015, mais il n'est pas impossible que dans la négo, ça aboutisse encore à un gel pour 2016. C'est bien parti pour, mais simplement, je reviens à ce qui a été dit ce matin, je ne sais plus par quel UNR, je crois que c'est Montaigu, parce que j'étais en discuter avec, les copains tout à l'heure, on nous parle de... Ils ont dit ce matin, il faut refuser la... Dites-moi donc quelque part.
Quel terme donc ?
Je cherche le terme. Hein,
non, non, mais pourquoi ? J'ai pas le texte ici, il y a la partie...
Ah, je cherche le terme.
Oui,
Enfin, ce que je voulais dire, c'est que ce terme-là a été utilisé par Laurent Berger dans la
presse.
Il faut savoir aussi de quoi on parle, parce que ça peut aussi, on peut utiliser ce terme-là dans nos discussions avec les amis ou les collègues en disant l'austérité. Mais l'austérité, il y a une petite différence quand même, c'est que l'austérité, c'est ce que vivent les retraités d'un certain nombre de pays, c'est-à-dire le Portugal, c'est-à-dire la Grèce et l'Espagne dans une moindre mesure. C'est une diminution drastique d'un seul coup du montant des retraites. Et on n'en est pas là. Non, non, mais je crois qu'il faut... Non, parce que dans les débats qu'on peut avoir entre nous après, il faut quand même être précis, parce que l'austérité, c'est ça. C'est, on vous dit, on vous diminue le montant de vos retraites de 20 à 30%. Et c'est d'un mois sur l'autre, du jour au lendemain. J'espère que... On en arrive à un problème. Le débat ne se situe pas aujourd'hui. Le débat se situe sur, pour l'instant, l'évolution du montant des retraites. Voilà, c'est quand même différent de parler de l'évolution et un jour d'annoncer aux retraités français, demain, compte tenu de la situation des comptes du régime de sécu ou de retraite complémentaire, on est contraint du jour au lendemain de vous réduire le montant de vos pensions de 20 à 30%. Ce serait une catastrophe. Hein? On n'en est pas là aujourd'hui. Donc, moi, je tenais à préciser ça. Je pense qu'il faut, bon, faut utiliser... C'est un peu ce qu'a voulu dire Laurent. Hein? Attention, hein, on n'est pas rendu là.
Et les journalistes
n'ont tenu que ça. Je suis intervenu au conseil de l'UCR sur ce sujet hier, parce que j'ai quand même dit que l'appréciation qu'on portait sur la situation des régimes de retraite, et je l'ai dit aussi à l'UCR, parce que j'ai vu que dans un article de Fil Bleu, on a dit les régimes au bord du gouffre, avec un point d'interrogation. Les médias, vous avez entendu, c'est les régimes sont en faillite. Donc, présenter ça de cette façon-là, c'est laisser entendre que pour effectivement rectifier la situation, c'est effectivement, comme je le disais, faillite veut dire qu'il faut prendre des mesures drastiques et tout de suite, et des mesures importantes. Et dans l'esprit d'un certain nombre de journalistes, c'est il faut diminuer le montant des pensions. Et certains ne se gênent pas de dire, comme ils ont fait au Portugal, en Grèce et en Espagne. On n'en est pas là. Alors moi j'ai dit à l'UCR, attention aussi aux termes qu'on utilise. Parce que même quand dans une publication de la CFDT on dit « les régimes sont au bord du gouffre », je dis « c'est pas tout à fait ça quand même ». Il y a quelques réserves, il faut étudier la situation, il faut rectifier le tir, mais il faut avoir une vision un peu plus claire.
Il y a la conjoncture de l'emploi.
Donc il ne faut pas non plus... voilà. Alors, le rapporteur, hier... on a convenu, quoi, a dit oui, je vais peut-être utiliser un terme un peu trop fort, parce que bon, on n'en est pas là. Parce que si on écoute les médias, c'est oh là là, il faut, ouais, il n'y a plus rien à faire, quoi, il faut tout, voilà. Il faut accepter la diminution du montant des pensions. On n'en est pas rendu là.
Non, mais c'est l'ouverture aussi, peut-être, par certains mouvements à des associations des capitalistiques, hein, du système de retraite.
Oui, oui. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut.
Et les médias et la pub, c'est tout, hein. Absolument. Même votre banquier local, conseil.
Absolument. Oui.
Et puis le déficit aussi des cotisations patronales. Hein.
Ça, c'est le. Oui, dans le régime général.
Ben oui.
Mm-hmm.
Et puis la fuite de certains bénéfices, c'est ça, ou des positions à l'extérieur. Hein.
Oui, oui. Mais au niveau du régime des retraites complémentaires, c'est un peu différent,
oui, on en
car là, il n'y a que des cotisations salariées.
Non, mais c'est pour les entreprises type IKEA ou autre,
oui,
hein, où est-ce qu'elles déclarent leur fonds.
Oui, d'accord.